Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Et nous allons lire dans un premier temps Luc chapitre 15, Luc chapitre 15, 11 à 24. Et c'est ce passage-là qui nous exposera en même temps le thème de ce matin, Luc 15, 11 à 24. Il y a nos aînés qui appellent cette histoire la plus belle prédication de la Bible. Voilà, nous lisons Luc 15, 11 à 24.
Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir.
Amen. Quel accueil merveilleux. Quel accueil extraordinaire, joyeux, rempli d'amour pour ce garçon, pour ce jeune homme qui a fait de grosses bêtises. Je crois qu'il a dû se dire, mais j'aurais dû revenir depuis longtemps. Pourquoi j'ai traîné ainsi? Bien-aimé, quand tout l'argent est fini, pourquoi n'est-il pas retourné à la maison? Parce que il pouvait encore marcher et chercher du travail. Et quand le travail était devenu difficile, pourquoi n'est-il pas retourné? Bon, parce qu'il avait quand même un petit quelque chose. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé à manger moins bien que les cochons. Moins bien que les cochons, c'est là qui s'est fatigué. Voilà le thème d'aujourd'hui. Vous tous qui êtes fatigués. Pourquoi le garçon ne retournait pas à la maison? Rendez-vous compte de la fête qu'on lui fait? Mais pourquoi ne rentrait-il pas? Parce que il n'était pas encore fatigué de son état. Il voulait se battre tout seul. Il voulait se relever tout seul. Certains peuvent dire, mais non, il ne retournait pas parce qu'il avait honte. Bien-aimé, quand on se retrouve à l'hôpital et que c'est des jeunes qui nous soignent, parfois, nous sommes dénudés. Il n'y a plus la honte. puisque ta vie est en jeu, parce que tu as peur de souffrir et de mourir. La honte est faible dans ces conditions-là. Là, c'est plutôt la fatigue. Il n'était pas encore suffisamment fatigué pour capituler et retourner. Il y a l'orgueil qui fonctionnait. L'orgueil l'empêchait de céder à la fatigue, de craquer par la fatigue et d'aller voir son père. Jésus dit dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Un prédicateur a dit un jour, « Quand vous parlez aux gens de Dieu, vous prêchez, vous faites les choses. Quand ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas encore fatigués. Il faut que Dieu les fatigue suffisamment pour venir. Il faut qu'ils soient fatigués. Il faut que... Entre l'orgueil et la fatigue, il faut que la fatigue l'emporte sur l'orgueil. Donc, il y a l'orgueil qui communique une force à l'être humain. Et il peut se retrouver dans les pires conditions. Il peut se retrouver à 95 ans, pratiquement impotent, mais tout en ayant un bon chéquier qui lui donne l'orgueil de penser qu'il est quand même en forme. Alors qu'on lui donne la nourriture à la cuillère, mais ça ne le fatigue pas au point de dire « j'ai perdu, je dois capituler ». Et le prédicateur disait « tant que quelqu'un n'est pas fatigué, il ne peut pas venir à Jésus ». C'est pourquoi Jésus dit « vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Tu es chargé et fatigué, c'est-à-dire que tu n'y arrives plus. Voilà. Donc, quand quelqu'un n'est pas encore fatigué, ça veut dire qu'il y arrive encore. Il arrive à faire des choses qui le font exister. Le vrai ennemi, c'est l'orgueil. Or, Dieu veut régner dans un humain. Mais il ne peut pas y avoir deux maîtres. La personne elle-même est Dieu. C'est pourquoi le processus de conversion qui aboutit au fait que Dieu règne sur l'être humain passe par le fait que l'être humain capitule par rapport à son contrôle sur lui-même. Qui dise, je suis fatigué de continuer à me battre. Je suis fatigué de continuer à lutter. Je suis fatigué de continuer à faire telle activité qui est censée me donner le bonheur, là, ça ne marche pas. Et j'insiste, mais ça ne marche pas. Alors là, je capitule. Je vais chercher Dieu pour m'aider. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est ça qui manque. Nous devons bien aimer, faire attention. Ne croyons pas que nos discours suffisent. Il faut que ça tombe aussi sur des gens qui sont fatigués, qui n'y arrivent plus pour que l'étape de la conversion soit franchie. Tant que quelqu'un y arrive encore, sa conversion ne peut pas être totale. Il faut que la personne capitule. Ce garçon-là a capitulé. Il a dit non. Je ne peux pas continuer ainsi. Je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à manger moins bien que les cochons. Je capitule. Et pourtant, le souvenir des richesses de son père, il l'avait toujours. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il y a pensé seulement. Parce qu'il vivait là-bas. Il savait comment c'était là-bas. Mais à un moment donné, le décalage a été, l'écart a été trop fort entre ce qu'il vivait et ce qu'il pouvait vivre chez son père. Il a dit, je préfère même qu'on me prenne là-bas comme un mercenaire. Il était fatigué. Notre thème, c'est ça. Quand est-ce que tu seras fatigué? Quand est-ce que tu seras fatigué de marcher par toi-même? Quand est-ce que tu seras fatigué des péchés que tu commets? Quand est-ce que tu vas te fatiguer de la colère? Quand est-ce que tu vas te fatiguer de la peur aussi, hein? Quand est-ce que tu vas te fatiguer de l'attachement à l'argent? Quand est-ce que tu vas te fatiguer pour dire, Seigneur, j'ai toujours fonctionné avec ça, j'en peux plus. Maintenant, je crie à toi. Quand est-ce que tu vas te fatiguer de l'orgueil, de l'égoïsme, de la fierté charnelle? Quand est-ce que tu vas te fatiguer pour devenir maintenant simple et te laisser porter par Dieu? Quand? C'est ça la question. Tu veux quoi? Nous allons lire des exemples des gens qui se sont fatigués et c'est comme ça que le salut est entré dans leur vie. Nous commençons par Luc, chapitre 7, 36 à 50. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus dit.
Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu n'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix.
Amen. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette femme prostituée était fatiguée. Elle était fatiguée de tous ses péchés. Elle était fatiguée d'être prostituée. Elle était fatiguée. Elle était épuisée. Elle n'en pouvait plus. C'est ce qui l'a conduit auprès de Jésus. Et Jésus savait ça, que cette femme était fatiguée. Et Jésus dit, venez, que tous ceux qui sont fatigués viennent, que tous ceux qui n'en peuvent plus. Vous savez, quelqu'un peut être prostitué et ne pas être fatigué. Tellement elle a des clients, tellement elle voit l'effet de son corps sur les hommes. Elle peut ne pas être fatiguée, même si c'est quelque chose de considéré comme sale. Elle peut être encouragée par tout l'argent qu'elle gagne. pour dire, mais je peux m'acheter des choses que ces gens-là ne peuvent pas faire, acheter. Mais à un moment donné, celle-ci n'en pouvait plus. Elle a atteint le point du salut. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas encore fatigués. C'est pourquoi leur vie s'attraîne. Beaucoup ont encore de la force personnelle. Tant que tu as encore de la force personnelle, même si tu te dis chrétien, ce n'est pas encore ça. Et d'ailleurs, comment on remarque ça? C'est ce que Jésus dit. On remarque ça à travers la reconnaissance que témoignent les uns et les autres. Donc, quand quelqu'un a été sauvé gravement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'en pouvait plus, qui était fatigué, il est aussi beaucoup plus reconnaissant que quelqu'un qui est venu comme intellectuellement, qui a compris les choses que oui, c'est vrai, Jésus, c'est la vérité, je préfère choisir cette voie-là. Il a compris, mais il n'a pas été sauvé, mais il a compris. Mais c'est des gens qui sont peu reconnaissants. Et c'est des gens qui ne vont pas donner leur vie, puisqu'ils n'ont pas non plus compris que Jésus a donné leur vie pour eux. Ils ont compris que Jésus dit vrai. Mais ils n'ont pas encore compris qu'ils étaient perdus, ils étaient endettés, comme Jésus explique dans la parabole. Ils étaient endettés au point de ne pas pouvoir rembourser. C'est écrit, tous deux ne pouvaient rembourser. Donc tous deux étaient dans des situations graves. Mais il y a un qui le sait, la dame, elle le sait. Mais le pharisien ne le sait pas. Il dit, mais c'est normal que tu ne m'aies pas fait beaucoup d'attention, tu ne te sois pas occupé de moi comme il faut, parce que ta reconnaissance est faible. Tu es dans une approche intellectuelle. Tu as saisi que j'étais un bon rabbin, c'est tout. Mais cette femme sait que c'est moi qui vais la sauver. Cette femme est dépassée par ses péchés. Et elle n'en peut plus. Elle sait qu'il n'y a que moi qui peux la sauver. Voilà sa reconnaissance. Elle est grande. Beaucoup de gens sont en Christ par réflexion, raisonnement humain. Ils n'ont pas été sauvés. Ils ne réalisent pas ça. Ils ne réalisent pas le salut obtenu à la croix. Ils ont trouvé Jésus par leur intelligence. Du coup, leur reconnaissance est faible. Ils sont incapables de grands sacrifices. Ils ont trop de raisonnement. Ils parlent beaucoup. Ils critiquent beaucoup. Mais ils ne se donnent pas beaucoup. Il dit, cette femme a beaucoup aimé. Voilà. Elle a beaucoup aimé. Voilà. Pourquoi elle a beaucoup aimé? Parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Plus ton cas est grave, quand tu es sauvé, plus tu es reconnaissant. Et cette parabole nous dit que notre cas, nous, à tous, était grave par rapport au péché. Vous savez, le péché est très dangereux. Vous savez, comment remarquer que le péché est dangereux? Quand vous pouvez observer les gens qui le font à l'extrême, comprenez que ces gens-là qui le font à l'extrême, c'est vous. Qu'est-ce que je veux dire par « c'est vous » ? Je veux dire tout simplement que ces gens-là, donc votre vie aurait pu être la leur. Tu aurais pu devenir assassin. Tu aurais pu devenir grand brigand, grand mafieux. Les circonstances n'ont pas facilité cela. Et tu es ce que tu es aujourd'hui. Donc, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas différents de celui qui viole, de celui qui tue, de celui qui fait de grandes escroqueries. En tant qu'être humain, on n'est pas différent. Il y a autre chose qui vient entrer en jeu. Mais l'être humain tel qu'il est, il est capable d'arriver à toutes sortes d'extrémités, n'importe lequel. Mais essayez même de fouiller le passé de beaucoup de gens qui ont fait des crimes. Autrefois, ils avaient 4 ans, ils avaient 8 ans, ils avaient 9 ans. Certains étaient apparemment corrects. Mais les esprits mauvais, la négligence du péché, ça peut t'amener loin. Les gens ne naissent pas prostitués. Ce sont les circonstances de la vie qui les amènent à cela. Et donc, tu aurais pu passer par le même chemin. Le péché de cette dame, c'est ton péché, c'est mon péché. Puisque c'est l'être humain qui est comme ça. Donc nous devons nous tous réaliser à travers les grands pécheurs, réaliser que c'est ce que nous sommes. Maintenant, incapables de se sauver tout seul. Et Jésus attend les bras ouverts, tous ceux qui viendront à lui pour dire, je n'en peux plus avec le mensonge. Je n'en peux plus avec la colère. Je n'en peux plus avec la jalousie. Je n'en peux plus avec la pornographie. Je n'en peux plus avec la gourmandise. Seigneur, je n'en peux plus avec le vol. Je viens pour que tu me sauves. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Oui, il peut tout pardonner. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Tu viens au Seigneur, tout simplement fatigué. Fatigué, tu dis, je n'en peux plus. L'égoïsme me tue. Mais beaucoup ont encore de la force, malheureusement. Et ils continuent avec certains péchés. Au lieu de capituler, ils se justifient. Et ça va aller loin comme ça. Au lieu de capituler, au lieu de reconnaître, ils disent, mais c'est la faute de la société, c'est la faute des autres. Au lieu de reconnaître, ils disent, mais non, j'ai été créé comme ça. Non, reconnais que le péché d'homosexualité, ce n'est pas bon. Tu n'as pas été créé comme ça. Viens, viens auprès du Seigneur. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués. Il n'a pas dit, vous tous qui êtes bons. Vous tous qui êtes fatigués, venez. Pourquoi rater un si grand salut? Cette dame a été sauvée ce jour-là. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais le pharisien qui était orgueilleux avait encore de la force. Jésus dit, même toi, tu devrais savoir que tu es incapable de payer ta dette de péché. Personne ne peut payer sa dette. Ce n'est pas ton bon comportement qui peut payer ta dette de péché. Vous savez, comme nous donnons souvent l'exemple, quelqu'un qui a le virus du sida ne va pas en être guéri parce qu'il a un bon comportement. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il soit guéri de l'extérieur par quelqu'un d'autre. Et c'est pareil avec le péché. Tu ne vas pas être guéri parce que tu as pris de bonnes décisions. Tu seras guéri par la puissance de Dieu. Et pour cela, il faut venir dire, je suis fatigué de mener cette vie. Je suis fatigué. Cette dame a été sauvée comme ça. Vous savez, le péché, ce n'est pas seulement un problème d'interdiction venant de Dieu pour nous permettre d'aller au ciel, pas du tout. Le péché, c'est quelque chose de mauvais qui détruit, ça détruit. Comme c'est écrit dans Jean 10, le voleur vient pour détruire, égorger et dérober. Le péché, c'est la même chose. Ça détruit les hommes. Ça déshumanise l'homme. Le péché te rend esclave. Jésus dit, l'homme est esclave du péché qu'il commet. Tu deviens esclave, tu n'arrives plus à te passer de la chose. Ça devient ton chef. À un moment donné, il faut se rebeller, dire « Ah non, j'ai été créé par Dieu. Il faut que ce soit Dieu mon chef et non le péché, non la cigarette, non le mensonge, non la colère, non l'orgueil. Pas, il ne faut pas que ce soit ça mon chef. Mon chef, c'est mon créateur, c'est Dieu. C'est cette fatigue-là, c'est ce dépit-là que le Seigneur veut voir en nous. Tu viens de dire « Non, Seigneur, je suis fatigué. » Je ne peux plus continuer. Sauve-moi. Sauve-moi. Et c'est comme ça que cette femme commence une nouvelle vie. Elle reçoit la vie d'en haut. Jésus dit, Madame, vos péchés sont pardonnés. C'est fini. Une nouvelle vie commence. Quand est-ce que tu vas avouer tes péchés? À Dieu, on ne demande pas que tu viennes me voir. À Dieu, tu dis, je suis fatigué de telle partie de ma vie qui est encore dans le péché. Je suis fatigué de ceci, Seigneur. Sauve-moi. On continue Luc 19, 1 à 10. Un passage extraordinaire encore. Luc 19, 1 à 10.
Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Amen, amen. Bien-aimé, Zachée, un homme riche, et malhonnête et fatigué d'être piloté par la soif des richesses, piloté par l'argent. Il est fatigué de ça. Il est fatigué d'être malhonnête. Mais les gens ne le savent pas. Lui-même le sait. Lui-même le sait. Mais il n'y a pas que lui-même. Il y a Dieu qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est important de comprendre ces choses. C'est que tant qu'un cœur n'est pas fatigué, ben Dieu ne peut pas y habiter. Et là, quand il apprend que Jésus passait par là, il se dit... Il ne me reste que lui qui puisse faire quelque chose. Je veux voir. Je vais essayer de le voir. On ne sait jamais. Et vous savez, il était tellement épuisé de sa vie d'esclavage vis-à-vis de l'argent, de sa vie d'esclavage vis-à-vis du mensonge, de l'escroquerie, il était fatigué de ça. Et Dieu voit tout ça, c'est ça qui est extraordinaire. Quand quelqu'un est fatigué, Dieu se présente à lui pour dire « Je peux maintenant te sauver ». Mais tant que quelqu'un n'est pas encore fatigué, il est écrit dans 1 Pierre 5, « Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles ». Il va te résister jusqu'à ce que tu te fatigues. Ce n'est pas Dieu qui va se fatiguer, c'est toi qui dois te fatiguer. Mais il y en a qui sont capables aussi de résister à Dieu jusqu'à en mourir dans l'orgueil. Parce que l'orgueil donne aussi une force qui enlève la fatigue qu'on devrait ressentir par les déboires de la vie, par le dégoût de nos péchés. Vous savez, beaucoup de gens parfois sont dégoûtés par leurs péchés. Et quand ils veulent lâcher, il y a l'orgueil personnel qui dit « Mais si je lâche, je vais me retrouver dans telle place, dans telle position, on va se moquer de moi, ainsi de suite. » Et ils récupèrent leur péché parce qu'ils ne veulent pas perdre leur position. C'est l'orgueil. L'orgueil donne une force. La personne est dépassée, perdue, fatiguée, mais l'orgueil lui redonne la force. Et Zachée a surpassé son orgueil. Comment nous le savons? Il est monté sur un arbre. Lui, un dignitaire de l'endroit, il monte sur un arbre. Il a triomphé de l'orgueil pour se présenter devant le Seigneur. Jésus dit, aujourd'hui, le salut entre dans cette maison. Et comment on sait qu'il en avait, il était fatigué de tout ce qui est argent? C'est que première décision, c'est qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres. La première décision de sa vie, il sort de l'esclavage de l'argent. Et les gens qu'il a volés, il restitue fois quatre. Voilà la première décision. Il se dépouille de tout ce qui était son chef, de tout ce qui empêchait Dieu d'être son chef, il s'en dépouille. En même temps, il confesse ses péchés parce qu'il dit que je vais restituer ceux à qui j'ai volé. Donc il se répand, il change de vie, il quitte le péché. Bien-aimé, quand est-ce que tu seras fatigué des péchés? Quand est-ce que tu seras fatigué de l'amour de l'argent? Quand? À un moment donné, il faut comparer le ciel à la terre. Quand tu compares, tu dis, mais non, je ne veux pas perdre le ciel pour ce que je vois ici, qui finit mal. Quand on observe tous ceux qui nous ont précédés, aujourd'hui on est en train de parler de la mort de Maradona. Quand vous regardez tout ce qu'il était, il avait en gloire, en argent, en popularité. Il était reçu par des présidents. Mais regardez comment il meurt. Comme une épave de voiture. Alors quand tu vois ça, tu dois te fatiguer des choses de la terre. Tu dois te fatiguer du péché et des choses de la terre. Dis non. Seigneur, je suis fatigué. Je ne veux pas être piloté par les choses de la terre qui conduisent à la mort. Maintenant, je vais être piloté par le ciel. Amen. C'est l'appel de Dieu pour nous. Vous tous qui êtes fatigués. Nous lisons Jean 3, 1 à 16. Une parole pour les gens qui se croient déjà bons connaisseurs, tout ça. Mais écoutez, il y a un connaisseur qui vient voir Jésus. Il faut te fatiguer de ta connaissance. C'est Jésus la connaissance. Il faut te fatiguer.
Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Amen. Arrêtons avec la religion. Arrêtons avec le fait d'avoir une telle expérience, avoir vécu tant de miracles, tout ça c'est rien. Le plus important c'est Jésus. Jésus dit le plus important c'est moi. Moi je viens du ciel, vous vous êtes tous de la terre. Tout ce que vous vivez est de la terre, c'est moi le sauveur. Arrêtez, qu'est-ce qu'on veut prêcher aux gens? Il faut prêcher aux gens Jésus. Il y a des gens aujourd'hui, leur prédication c'est il ne faut pas regarder la télé. Il ne faut pas manger ceci. Il ne faut pas... Non, il faut prendre Jésus. Nous sommes tous perdus. La vérité, c'est Jésus. Dans Jean 1, 17, Jean dit, Moïse a amené la loi, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Ce n'est pas ton église qui sauve, c'est Jésus. Il faut présenter aux gens Jésus. Il faut expliquer que c'est Jésus qui est le salut. Même si les gens veulent nous imposer autre chose. Vous savez, il y a des gens qui viennent nous voir, mais ils veulent qu'on s'occupe d'eux selon leur manière à eux. Mais dans ce cas, pourquoi vous êtes venus nous voir? Si vous êtes venus nous voir, laissez-nous travailler. Laissez-nous vous présenter Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui sauve. Jésus te conduira dans les verts pâturages. Jésus dit à Nicodème, Nicodème, tout ce que tu as appris, ça fait peut-être 40 ans, c'est petit. La vraie réalité, c'est moi. C'est moi qui donne la nouvelle naissance. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens un enfant de Dieu. Bien-aimé, quand je parlais de péché avant, mais nous ne devons pas pécher. Parce que c'est interdit seulement. Mais non, l'interdiction, c'est petit. Ce qui est grand, c'est qu'on est des enfants de Dieu. Comment tu peux être un enfant d'aigle? Un petit d'aigle, et tu ne peux pas voler. Et tu vis au milieu des cochons et tu marches seulement. Non, il y a un problème. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc quand nous refusons le péché, c'est parce que nous voulons vivre selon un statut céleste. Sainteté, zéro péché. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'être comme notre papa. Vous savez, Jésus a dit, soyez parfaits, Matthieu 5, comme votre Père céleste est parfait. Voilà, donc on n'est pas parfait parce qu'on a peur d'aller en enfer. Non, on est parfait parce qu'on doit être comme celui qui s'appelle notre Père est, puisqu'on doit être comme lui. C'est Jésus qui fait tout ça, qui fait que tu deviennes un enfant de Dieu. Bien-aimé, les gens vont vouloir nous distraire. Moi, je vous dis, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le Fils qui est le salut. J'écoutais le témoignage d'Esther Gulchan. Esther Gulchan, quand elle voit Jésus, Jésus l'amène à un moment donné au ciel. Elle entend la louange au ciel. Il y a une louange en faveur de Jésus. Et puis elle entend une voix qui dit, c'est mon Fils, c'est lui que tu dois écouter. Dieu l'a dit aussi dans Jean 12. Il a dit aux gens qui étaient là en foule, c'est mon Fils, écoutez-le. Si un pasteur vous parle d'autre chose, un frère commence à vous parler d'autre chose, de telle méthode, adventisme, branhamisme, c'est faux tout ça, c'est Jésus. C'est le Fils qu'il faut écouter. C'est lui le sauveur. Quand est-ce que tu vas te fatiguer de ta religion? Branhamisme, catholicisme, évangélique, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui disent, moi je suis un pentecôtiste. Mais c'est rien tout ça. C'est le Fils qui tranche. Quand le Fils te saisit, tu es sauvé. Nicodème était docteur, mais il était fatigué. Quand il a vu Jésus, il a compris que lui, c'était un philosophe, un discoureur. Bien-aimé, ça suffit d'être des discoureurs, des gens qui parlent, qui connaissent beaucoup, mais il n'y a pas la vie. Il a senti quand Jésus y avait la vie. C'est pourquoi, dans sa fatigue, dans son brisement, il vient la nuit pour qu'on ne le voie pas. Mais il vient chercher la vie. Il dit, Seigneur, je fais comment pour aller au ciel? Il pose ça dans son cœur. Jésus entend la voix de son cœur. Jésus savait que cet homme-là était fatigué. C'est comme ça que Nicodème, plus tard, il va défendre Jésus. Il va devenir un vrai enfant de Dieu. Jésus savait que celui-là était fatigué. Il est épuisé de tous ses livres. Il est épuisé que les gens l'appellent docteur. Lui-même, il ne se sent rien. Vous êtes bien aimé. C'est fatigant de voir que les gens, ils te respectent, ils te prennent pour quelqu'un. Mais toi-même, tu sais au fond de toi que tu es rien, quoi. Alors, qu'est-ce que nous faisons quand ça nous... On dit, non, s'il vous plaît, c'est Jésus. C'est Jésus qu'on doit suivre. C'est la Bible, c'est Jésus. Quand est-ce que tu vas te fatiguer de tes systèmes? Comme quoi, il faut prier à 3 heures du matin. C'est des systèmes. Jésus te conduira dans tout. S'il faut qu'il te réveille à 3 heures, il le fera aussi. Mais ce n'est pas les systèmes qui comptent. Nicodème était dans les systèmes. Jésus lui dit, la vie, c'est moi. La solution, c'est moi. Accepte que la religion, c'est rien devant Jésus. Sois fatigué et viens à Jésus. Nous lisons Jean chapitre 21. Maintenant, pour ceux qui sont maintenant en Jésus, Jean chapitre 21, 15 à 19.
Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu.
Amen, amen. L'apôtre Pierre, vous connaissez son histoire, non? Depuis Luc 5, on lui demande de jeter le filet. Il commence à compliquer. Ah oui, mais on a pêché toute la nuit, Yari. Voilà, on n'a pas eu toujours ses propres efforts. Mais bon, il se ressaisit quand même. Il jette le filet. Jésus dit, mais je dois être crucifié. Je vais souffrir pendant 3 et je vais être crucifié. Et puis, je vais être enterré. Le troisième jour, je vais ressusciter. L'apôtre Pierre dit, non, ce n'est pas possible. C'est toi le Messie. Tu n'as pas à vivre toutes ces choses-là. Je ne suis pas d'accord. Donc, toujours ses propres efforts. Il veut montrer qu'il connaît, que c'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Mais il est en Christ. Mais il y a encore la nature personnelle. Voilà, je parle maintenant aux chrétiens. Donc, tu es en Christ. Mais c'est toujours toi qui fais. C'est toujours toi qui fais. Dieu te met des situations pour que tu te fatigues. Mais ton orgueil t'empêche de te fatiguer. Ton orgueil te redonne de la force. Quand Jésus a permis la situation que pendant toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Et quand maintenant ils ont le poisson, par la parole de Jésus, ce jour-là, Pierre devait se dire, c'est fini. Je n'utilise plus mes raisonnements. Je n'utilise plus mes capacités, je n'utilise plus mes connaissances. Ce qui compte, c'est cet homme-là. Ce qui compte, c'est Jésus. C'est lui que je vais suivre. Mais quand Jésus dit, mais je vais être crucifié, ah non, je ne suis pas d'accord. Une fois de plus, il reprend encore sa logique. Sa logique, c'est que le Messie est un champion comme Samson, c'est un champion comme David. Il ne cède pas face à ses adversaires, il les combat. Ce n'est pas comme ça. Mais Jésus dit, mais qui est le Messie? C'est moi. C'est moi qui dis que je dois être crucifié pour que vous soyez sauvés. Ah non, 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 non. Quand est-ce que ce jeune homme comprendra? Eh bien, autre histoire. Jésus dit que les gens vont l'abandonner quand on va l'arrêter. Pierre dit, oh, tous là, ils peuvent t'abandonner, mais moi, jamais, je me battrai. Jésus dit, Pierre, quand est-ce que tu comprendras? Je t'annonce que tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq ne chante. Bien-aimé, quand les soldats sont venus arrêter Jésus, Pierre s'est battu, effectivement. D'accord. Mais quand il se retrouve maintenant devant la femme qui dit, mais... Et, je crois qu'il s'est battu, Jésus n'est pas encore arrêté. Hein. Là, il se dit, j'entraîne la lutte. Jésus va se ressaisir, on va les taper, puis on s'en va. Oh, mais Jésus se fait arrêter, vraiment. Oh, Pierre dit, mais je vais le suivre. Peut-être qu'en chemin, il va changer de position. Rien. Jésus se fait juger. Couronne d'épines. Ah, Pierre se dit alors, là, c'est fini. Et quand une dame vient dire, mais toi, je te reconnais, tu étais avec lui. Ah non, 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 non. La dame reprend encore une deuxième fois. Ah non, quelqu'un d'autre reprend. Ah, c'est fini. Il a renié 3 fois, comme le maître avait dit. Pierre a pleuré. C'est ce jour-là qu'il était fatigué. C'était fini. C'est ce jour-là, chaos, c'est fini. Il a compris qu'il n'était rien, que ce qui était important, c'est de laisser Dieu faire en nous. Nous sommes faibles. Bien-aimés, quand est-ce que tu viendras dire à Dieu, je suis fatigué. Je ne veux plus me débrouiller par moi-même. Maintenant, c'est toi qui prends la place. C'est toi qui vas m'inspirer. C'est toi qui vas me conduire. Je me laisse conduire par toi, désormais. Bien-aimé, maintenant, pourquoi on a lu le texte qu'on a lu? Jean 21. Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Jésus dit, ah, tiens, il a oublié, il continue encore. Jésus recommence, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Jésus dit, Pierre, réfléchis encore. Est-ce que tu m'aimes? Ah, c'est là que Pierre dit, ah, cette fois-ci, c'est fini. Je dépends de toi, Seigneur. Il dit, Seigneur, je paraphrase ce que Pierre dit la troisième fois. Seigneur, tu as déposé l'amour pour toi dans mon cœur et tu le sais. C'est tout. Ce n'était plus « je t'aime ». Non. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais ce que tu as fait toi-même. Tu sais ce que tu as fait. Et c'est là que Jésus le lâche. Jésus voulait que Pierre comprenne que ce qui est important, c'est ce que Dieu fait en toi. Ce n'est pas ce que toi, tu penses être capable de faire. C'est ce que Dieu fait en toi. Et quand tu sais que c'est Dieu qui a fait, tu es reconnaissant. Tu es simple. Tu ne prends pas sa place. Dans les félicitations, tu retournes la gloire à Dieu. Parce que tu sais que c'est lui qui a fait. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Parce que, puisque c'est toi qui l'as fait, tu sais ce que tu as fait. Bien-aimé, Satan nous dit, mais tu n'es pas un bon chrétien. Mais non, justement, c'est parce que je suis faible que je me confie en Jésus. Et Jésus s'occupera de moi. Jude 24 nous dit, à celui qui nous prie nous préserver de toute chute, il s'occupera de moi. Il me donnera la victoire. C'est Jésus qui est tout pour moi. Bien-aimé, capitulons. Vous savez, quand nous on chante, « Oui, prends tout, Seigneur. » En anglais, c'est « I surrender all. » Je capitule, j'abandonne tout. En anglais, c'est ça. J'abandonne. Je crois que Jésus, tu peux me conduire. Je crois. Quand est-ce que tu vas croire ça? Pourquoi chaque fois te dire, mais je suis un piètre chrétien, je ne lis pas beaucoup la parole. Est-ce que Dieu peut me conduire? Mais c'est lui qui a promis qu'il te conduira dans toute la vérité. Il faut croire. Quand est-ce que tu vas capituler pour dire, j'accepte que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Ce n'est pas à moi de compliquer. Dieu m'a fait des promesses, je crois et je lui fais confiance. Mais tu veux toujours compliquer. Pourquoi compliquer? À un moment donné, il faut dire, Seigneur, nous croyons que si tu as transformé Pierre, tu peux nous transformer. Je crois, Seigneur, si tu as sauvé Zachée, tu peux me sauver. Vous savez, frères et sœurs, c'est quelque chose dont on parlera plus tard. Remarquez bien que ces gens-là, ils sont transformés avant de voir Jésus. Hein. Je vous donne quelques cas seulement. Hein. Zachée, la dame, la prostituée, Jésus lui a dit que si elle est venue, Jésus a dit que si elle est venue faire tout ça, c'est parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais alors qu'elle n'avait pas encore parlé avec Jésus. Ce sont des choses qu'on développera un autre jour. J'en parle aujourd'hui pour que nous comprenions que c'est Dieu, comme il dit dans Jean 15, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui ai tout préparé. C'est juste pour qu'on comprenne ça, que nous sommes l'œuvre de Dieu. Alors si nous sommes son œuvre, arrêtons de nous épuiser à nous conduire nous-mêmes, à faire des... Vous savez, il y a des gens qui prennent toutes sortes de mesures, de méfiance, des choses comme ça. Oui, c'est vrai que le Seigneur nous a dit qu'on soit prudent comme des serpents. Ça veut dire quoi être prudent comme un serpent? Ça veut dire que quand Dieu nous donne des indices pour qu'on fasse attention, on prend au sérieux. Mais ça ne veut pas dire que nous commencions à méditer, à jouer à la CIA, à jouer au KGB. Non, ça veut dire tout simplement que je suis attentif au Seigneur. S'il m'avertit par quelque chose, je prends au sérieux. C'est ça, prudent. Je suis attentif à ce que le Seigneur me montre. Il m'a montré la personne en train de voler. Ah, je comprends qui j'ai affaire. Voilà. Tout ça. Mais c'est en fonction des informations du Seigneur. Ce n'est pas un appel à la méfiance. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent se protéger tout seuls. Ils sont suffisamment aguerris. Ils ont de l'expérience. Oh, bien-aimé, tu n'as pas plus d'expérience que Satan. Ça fait plus de 2000 ans qu'il combat les chrétiens. Il a vu beaucoup de choses. Il peut te faire un coup. Pendant 20 ans, il prépare le coup. Toi, tu ne sais pas. Mais comment tu peux en être préservé si tu te confies au Seigneur, qui lui aussi, il voit tout ce que Satan fait. Voilà. Une autre dimension. D'où l'importance de capituler et de se confier au Seigneur, dans le Seigneur. Quand est-ce qu'on va se fatiguer? Bien aimé, moi j'ai dit au Seigneur, je suis fatigué de douter. Il y en a aussi qui doutent à tout moment. À un moment donné, il faut se fatiguer de douter. Allez, tu te jettes du pont, quoi. Voilà. Avec quand j'avais les douleurs à un moment donné de névralgie, vous savez. On a entendu des choses à gauche, à droite, mais ça va finir par telle chose, ça va finir par une opération, ça va finir par ceci, risque de paralysie. Alors, tu fais tourner tout ça dans la tête et tu commences à t'épuiser. Et bien aimé, à un moment donné, je me suis épuisé. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout avec le Seigneur. Je préfère, voilà, s'il faut aller jusqu'à être handicapé, eh bien, on y va. Ça ne me fait plus peur. Tant que le Seigneur est avec moi. Ça suffit de douter, de m'imaginer le pire. Satan est en train de me déranger en me faisant imaginer le pire. Eh bien, j'accepte ce pire-là, mais avec le Seigneur. On y va. On ira jusqu'au bout. Je crois en lui. Voilà bien. Eh bien, mais quand tu te confies comme ça, quand tu capitules, quand tu arrêtes de réfléchir pour interpréter, si ça a duré 2 jours, ça veut dire que ça arrive à tel stade. Si ça a duré 10 jours, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Tant que tu fais tout ça, tu te déranges, tu te perturbes. Mais quand tu te fatigues de ton contrôle, tu dis, eh bien, advienne que pourra, Jésus est avec moi. C'est le plus important. Là, tu as vaincu. Tu t'es vaincu toi-même. Tu as vaincu tes raisonnements. Tu as vaincu tes calculs. Et maintenant, c'est Jésus qui te conduit. Bien-aimé, respectons juste la parole simple. Acceptons que c'est vrai. Il a promis qu'il nous conduira. Il a promis qu'il nous donnera la nourriture. Il nous a promis tout ça. Alors, je crois et je m'en vais. J'arrête de faire mes calculs. À un moment donné, bien-aimé, il faut céder comme le fils perdu. À un moment donné, tu dis non, ça suffit de me conduire tout seul. Ça suffit d'hésiter, ça suffit de tourner en rond, ça suffit de vivre une vie chrétienne religieuse, monotone. Seigneur, ce n'est pas ce que nous voyons dans les actes des apôtres. Je suis fatigué, Seigneur. Change les choses. Voilà, il faut le dire au Seigneur. Seigneur, je suis fatigué de ma vie chrétienne. Elle est monotone. Je suis fatigué. Tu le dis. Mais il y en a qui forcent. Avec un poste de diacre à l'église, ils se croient quelqu'un, donc ils forcent. Alors que la vie est monotone, alors que la vie est religieuse. À un moment donné, il faut être épuisé et dire non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Dans la Bible, je vois du mouvement. Bien-aimé, on ne cherche pas du mouvement pour le mouvement. C'est le Seigneur qui va créer le mouvement, le fleuve d'eau vive. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas ce que tu nous as promis. Tu nous as promis le fleuve d'eau vive. D'accord, nous sommes instruits, nous étudions ta parole, mais où sont les fleuves d'eau vive? Il faut qu'on dise, Seigneur, on est fatigué. Zachée était fatigué. Elle a dit non, ça suffit. L'argent ne me donne plus le bonheur. Je veux autre chose. À un moment donné, c'est fatigant la terre. Ce que nous voulons, c'est les choses spirituelles, célestes, glorieuses, comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui vivait sans être attaché à la terre. Esther Gulshan, elle avait prié pendant 3 ans, puisque Jésus s'était révélé à elle, pour lui dire, je suis celui qui guérit, celui qui ressuscite les morts. Alors qu'elle était musulmane. Hein. Mais je commence par le début. Elle disait qu'elle était tellement musulmane qu'elle n'imaginait pas que quelqu'un puisse oser la sortir de cela. Mais quand ils sont partis à la Mecque chercher la guérison, mais juste avant la Mecque, ils étaient partis en Angleterre pour chercher la guérison par les médecins parce qu'elle avait tout le côté gauche paralysé et atrophié depuis l'âge environ de 6 mois, toute la partie gauche. Et là, elle avait 14 ans quand ils vont en Angleterre. Le médecin leur dit, je ne peux rien pour votre fille. Et il dit à son père, seul Jésus peut faire quelque chose. Et ils se sont dit, quoi? C'est les chrétiens qui peuvent faire quelque chose. C'est impossible avec leur mini-jupe, tout ça, leur fausse religion. Parce que pour eux, tout ce qu'ils voient à la télé, c'est les chrétiens en Europe. Ils ont balayé d'un revers de main cette proposition. Et ils sont partis à la Mecque pour chercher la guérison là-bas. Pendant 7 jours, ils ont fait toutes les cérémonies de la Mecque. Ils ont bu l'eau de la source Zamzam. Ils ont fait tout. Tué peut-être 13 moutons. Balancé des pierres sur un certain Goliath qu'il y a là-bas. Eh bien, une statue qu'il y a là-bas, on balance les pierres dessus. Rien. Et quand elle est revenue, elle s'est fatiguée. Amen. À un moment donné, il faut s'épuiser. Il faut reconnaître que ce n'est pas ça. Il faut dépasser l'orgueil pour dire non, là je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Dépasser l'orgueil, dépasser la routine pour dire non, c'est pas ça. Alors vous savez, cette fatigue, cet épuisement l'a conduit à quoi? À prier en parlant à Dieu directement, pas en faisant les prières religieuses musulmanes. Donc à un moment donné, toi aussi tu dois dire, parler à Dieu maintenant directement. Arrêter de faire les prières. On dit, on va prier pour telle chose. On prie. Mais ton pensée n'est pas là. À un moment donné, il faut comprendre que Dieu existe et lui parler vraiment. Donc tu parles vraiment à quelqu'un. C'est ce qu'elle a commencé à faire, tout en étant toujours musulmane. Mais elle ne faisait plus les prières de l'islam. Elle parlait à Dieu. Voilà comment tu m'as créé. Infirme. Maintenant, je veux mourir. Je veux mourir. Parce que non seulement que ma maman est morte quand j'étais bébé, maintenant, j'ai 15 ans et c'est mon père que tu enlèves et mon père meurt. Alors Dieu plutôt, je préfère mourir, tue-moi. Et c'est quand elle a dit, tue-moi, je préfère mourir, qu'elle entend une voix qui lui dit, qui c'est qui a guéri les aveugles? Qui c'est qui a donné, qui c'est qui a ressuscité les morts? Je suis Jésus. Lis dans telle sourate, on parle de moi. Et je te dis que tu ne mourras pas. Je te ferai vivre. Et pendant, depuis ce jour-là, pendant 3 ans, elle a prié, Jésus, le prophète qui guérit, guéris-moi. Elle priait plus autre chose. Il y a des gens, quand ils font 1 an comme ça à prier Jésus, il n'y a rien. Ils apprennent qu'aux États-Unis, il y a un réveil là-bas, les gens crient comme des chiens et des coqs. Peut-être c'est ça qui va me guérir. Non, il n'y a qu'un seul chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. 1 an, 2 ans, 3e année, toujours pas de guérison. Une fois de plus, elle est quoi? Fatiguée. Vraiment, c'est le bon exemple. Épuisée. Elle dit, mais Seigneur, ça fait 3 ans que je prie. Si tu ne veux pas me guérir, dis-le-moi. Quand elle a dit cette phrase, c'était 4h du matin, la chambre s'est illuminée de la gloire de Dieu, à tel point que depuis ce jour-là, ses yeux ayant été exposés à cette lumière-là, ne pouvaient plus soutenir la lumière normale. Elle met toujours des lunettes de soleil. Et ce jour-là, Jésus lui apparaît avec les 12. Jésus lui dit, lève-toi et marche. Elle dit, je ne peux pas. Même que ses membres étaient devenus, vous savez, tout fins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les membres ont grossi instantanément. Elle parle et dit, vous voyez ma chair telle qu'elle est là? Cette chair-là m'a été donnée par Jésus. Donc, je n'avais pas de chair ici. La chair repousse. Elle se lève, elle marche. Bien-aimée, cette femme-là a vécu des difficultés plus tard. On a voulu la tuer par ses propres frères. Mais qui pouvait changer sa position? Qui pouvait, sachant d'où elle venait? On lui disait, mais dis que c'est Mahomet qui t'a guéri. Elle dit, non, c'est Jésus qui m'a guéri. Ne parle pas de lui, on est au Pakistan. Non, c'est Jésus qui m'a guéri. Partout où elle passait, c'est Jésus. Arrêtons avec la religion. Arrêtons avec nos propres efforts. Arrêtons de lutter contre les humains. C'est du temps perdu. Soyons remplis du Saint-Esprit et sauvons les humains. Arrêtons avec la routine. Il y a beaucoup de gens à sauver. Disons, Seigneur, nous aussi, nous voulons vivre la Pentecôte. Nous aussi, nous sommes des humains comme Élie. C'est ta parole qui le dit. Élie a prié 3 jours. C'est ta parole qui nous exhorte à prier instamment. Et pendant 3 ans, le ciel a été fermé. Ensuite, il a prié instamment. Et pendant 3 ans, et après 3 ans, le ciel s'est ouvert, la pluie est tombée. C'est ta parole qui nous dit que nous sommes des humains comme Élie. On doit être fatigué, bien-aimé, de voir tout ce qu'on voit à la télé. Là, on m'a envoyé une vidéo de quelqu'un qui dit que c'est lui Jésus, que c'est lui qui... La Bible parle de lui, quoi. Il est tenté de dire aux gens, vous me regardez avec les gros yeux, mais qu'est-ce que Jésus peut utiliser de termes comme ça? Et les gens suivent. Donc, on est fatigué de voir toutes ces escrocs, ces gens-là prêcher la prospérité. Ça continuera toujours. Mais il faut aussi un petit troupeau qui agisse avec puissance, qui ait la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Il faut qu'on le dise au Seigneur. Il faut qu'on dise, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous voulons voir ta gloire. Il faut qu'on lui dise. Ça doit changer. Mais Bien-aimé, si tu n'es pas encore fatigué, dis Seigneur, je suis encore fort, je veux m'en être fatigué. Bien-aimé, nous allons prier. Seigneur, nous sommes fatigués de voir le monde tel qu'il est. Nous voulons que tu brilles au milieu de nous, Seigneur. Que tu brilles au milieu des vrais enfants de Dieu. Nous sommes fatigués de voir aujourd'hui des gens comme Maradona être déclarés Dieu, Seigneur. Ça nous fatigue, Seigneur. Ça nous épuise. Que les gens prennent ta place comme ça impunément, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Même si ça va s'accompagner de la persécution, nous voulons. Parce que nous ne pouvons pas vivre autrement. Nous refusons la routine, Seigneur. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur, nous venons t'abandonner nos vies. T'abandonner nos richesses, nos familles. Nous te disons, Seigneur Jésus, sers-toi de nous, petit troupeau, mais qui va faire briller ta lumière dans le monde entier, que les gens aient, comme dans un marché, les bons produits comme les mauvais produits. Seigneur, c'est toi le bon produit, que ça soit clair pour beaucoup. Et s'ils doivent choisir le mauvais produit, qu'ils choisissent parce qu'ils ont refusé le bon, Seigneur. Mais pas parce qu'il y a absence du bon produit, Seigneur. Que nous, le petit troupeau, les gens qui sont attachés à toi, Jésus seul, et à ta parole, Seigneur, que nous nous consacrions à 100%, à 100%, pour te servir, afin que tu nous utilises, Seigneur, pour parler au monde entier. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.